Facebook, YouTube, Twitter et Instagram.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bienvenue à l'écoute de l'émission interactive de VOA Afrique, à votre avis. Nathalie Barge avec vous dans les studios de La Voix de l'Amérique à Washington, en compagnie de Koy Gwenga, rédacteur en chef des médias numériques et sociaux de VOA Afrique, avec notamment une spécialisation en économie. Merci beaucoup d'être avec nous.
Heureux d'être là.
Alors, on va parler notamment des crypto-monnaies ou des monnaies virtuelles. Ça reste encore un grand mystère pour bon nombre d'entre nous, car l'on sait que la Centrafrique a adopté officiellement le Bitcoin et légalisé l'usage des crypto-monnaies devenant le premier pays africain à le faire. Et seuls le Salvador et la Centrafrique ont adopté le Bitcoin, mais d'autres pays envisagent de le faire. Et selon Chainalysis, spécialisé dans la technologie blockchain, le Vietnam est le pays où les crypto-monnaies sont les plus utilisées devant l'Inde, le Pakistan, l'Ukraine, le Kenya et le Nigeria. C'est intéressant pour l'Ukraine. De nombreux pays en développement y ont recours, comme le Togo, qui est à la 9e place derrière les États-Unis. Alors les questions à nos auditeurs, c'est: que pensez-vous de l'initiative de la Centrafrique et quels sont les avantages et les inconvénients de la monnaie virtuelle? Dans un premier temps, je me tourne directement vers vous, Koy, pour poser la question principale. Comment ça marche, la crypto-monnaie, d'une manière globale?
En fait, ce sont des unités de vente et d'achat des biens et des services. À la différence du franc CFA, de l'euro ou du dollar, elles n'ont pas une représentation physique. Il n'y a pas un billet, il n'y a pas de pièce de monnaie. Elles ne sont pas garanties par une autorité gouvernementale quelconque. Et elles sont plutôt décentralisées, donc c'est strictement sur Internet. Et l'usage est totalement volontaire. Et les transactions sont fichées dans une sorte de registre public qu'on appelle le blockchain.
Voilà. Bon, le blockchain, c'est aussi assez complexe à comprendre, mais bon, on va comprendre un petit peu que c'est un espèce de bloc, comme le nom l'indique. Ça pourrait faire l'objet d'une autre émission. On rentre tout de suite dans le mystère des créateurs de ces crypto-monnaies, parce que moi, j'ai vu qu'il y en avait plus de 1500. Et bon, il y en a une soixantaine qui sont connues, mais la plus connue, c'est le Bitcoin, je crois. Alors, qui l'a inventé et pourquoi? Pour quelle raison, en fait?
Alors, ça reste un mystère. C'est en 2008-2009 que le Bitcoin apparaît. C'est d'abord sous une forme d'une sorte de dissertation, signée par un certain Satoshi Nakamoto. On ne sait pas qui c'est. Ça peut être une personne, ça peut être un groupe de personnes. Et jusqu'à ce jour, ça reste un mystère.
Ça fait un peu japonais, non? Comme non, c'est des spéculations sur les. Oui. Donc on n'en sait pas plus que ça. Parce que bon, il y en a d'autres. On sait qui est-ce qui les a créés. Par exemple, il y a comment il s'appelle?
Ethereum. Voilà. Qui est créé par Vital Buterin,
un jeune
russe qui a étudié ici aux États-Unis. Ouais.
Et dans la plupart des cas, c'est des jeunes, en fait, on imagine, non? C'est vraiment les start-up, les jeunes qui se lancent là-dedans à fond, quoi.
En ce moment, oui.
Ouais. Et on l'utilise pour quel type de transactions, en général?
Toutes sortes de transactions. Il y a des bons usages, il y a des mauvais usages. On peut l'utiliser pour acheter des biens et des services. On peut l'utiliser pour des investissements. Il y a des banques en ce moment qui utilisent ça dans leur portfolio d'investissement qu'ils offrent à leurs abonnés. Et dans les mauvais usages, il y a les rançons, le paiement des rançons.
Lorsqu'on, c'est dans les inconvénients.
Les hackers,
pas pour tout le monde, on va dire, oui.
Donc, ils demandent le versement des rançons. Aussi, de plus en plus, les autorités s'intéressent à l'usage par des groupes de criminels organisés pour le blanchiment d'argent.
Ouais, donc ça pose beaucoup de problèmes
et
encore.
Le financement des activités terroristes, ce genre de choses.
Blanchiment d'argent, etc. Mais en tout cas, les banques se lancent là-dedans de plus en plus, c'est ça ?
Des maisons d'investissement, oui.
Et alors, qui l'utilise en gros, hein, si on peut schématiser ? Quel est le profil des utilisateurs socio-économiques, géographiques ? Parce que j'ai quand même vu dans ce sondage que j'ai cité tout à l'heure que contrairement à ce qu'on pense, finalement, c'est dans les pays en développement qu'on utilise beaucoup ça.
En fait, c'est pour essayer de fournir une sorte d'assurance lorsque votre monnaie elle n'est pas très stable, lorsque votre monnaie n'a pas suffisamment de notoriété internationale. Les cryptos vous permettent d'avoir une sorte d'universalité du coût de transactions. Et donc, ça explique un peu ça. Mais seuls quelques pays ont les infrastructures qu'il faut pour utiliser ça au quotidien.
Donc, en fait, ça veut dire qu'on ne peut pas le faire où on veut partout.
On ne peut pas le faire partout. Et c'est l'une des...
si c'est à travers le net, il faut, c'est pas possible de le faire partout où on se trouve.
C'est justement l'une des vulnérabilités du système. C'est-à-dire qu'il faut avoir une connaissance, il faut avoir une connexion Internet, il faut savoir lire, il faut savoir manipuler un appareil électronique, contrairement à un billet de banque, un dollar, un franc CFA.
C'est assez technique, les opérations à faire, tout
pas
ça.
Pas tout à fait, parce qu'il existe des applications qui vous permettent de conclure votre transactions. Mais ça exige quand même un certain minimum de savoir lire et écrire.
Alors jusqu'ici, seulement deux pays, on l'a dit tout à l'heure, ont adopté le Bitcoin, le Salvador et la Centrafrique. C'est intéressant, deux pays en développement. Et pourquoi pas plus ? On sait qu'il y en a d'autres qui sont en cours de le faire, mais pourquoi si peu jusqu'ici finalement ?
Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que la monnaie, c'est un peu la représentation de la souveraineté d'un pays. Et ce serait très difficile pour un pays de se soumettre volontairement à une monnaie pour laquelle on ne gère pas la politique monétaire. On ne peut pas faire usage des taux d'intérêt comme d'habitude, comme la Fed le fait lorsque les circonstances l'exigent. Il y a aussi le fait que les crypto-monnaies fluctuent.
Beaucoup, oui.
Le matin, on peut être millionnaire. Dans l'après-midi, on est totalement fauché. Oui. Donc, c'est ce genre de volatilité.
Oui, mais alors, c'est pas du tout sûr, ça, au plan financier. Ça fait forcément peur aux gens. Parce que déjà que, d'une manière générale, la monnaie, ça fluctue et on peut aussi être ruiné rien que sans cette monnaie-là.
Voilà. Donc, il y a certains pays qui ont trouvé une sorte de middle ground en lançant une version électronique de leur monnaie. En Afrique, on a le e-Naira. Il y a le e-Yuan en Chine. Et jusqu'au Venezuela, ils ont le e-Bolivar, ils appellent ça Bolivar digital. Donc, ils comprennent le potentiel de...
Donc ça, c'est assuré par les banques centrales aussi ou pas ?
Oui.
D'accord, ouais.
Oui.
Donc en fait, elles font un peu la même chose finalement. C'est comparable ou pas ?
C'est la même chose sur le plan technologique, mais on revient au problème initial. C'est-à-dire que c'est garanti par une autorité étatique à laquelle on n'a peut-être pas confiance.
Oui, et là on revient finalement à la raison pour laquelle ces jeunes créent ce genre de crypto-monnaies. C'est pour être plus libre, c'est pour avoir moins de frais à payer, c'est pour pas dépendre justement du système. Est-ce que c'est contre le système à l'origine ?
Non, c'est un peu le reflet du désabus, comment dire, le manque de confiance, parce que ça apparaît en 2008-2009, au moment où on est en crise. Économique, crise financière internationale. Ouais. C'est-à-dire les institutions établies ont fait...
Oui, absolument.
Voilà.
C'était vraiment le moment. Ouais.
C'est dans ce contexte que Bitcoin apparaît. Donc, comme une alternative au gouvernement et aux institutions qui sont là, qu'on estime qu'elles ne sont plus crédibles.
Ouais. Et après, il y a eu la Covid, l'Ukraine et tout ça, parce que j'ai mentionné tout à l'heure l'Ukraine. Et on suppose que c'est très utilisé par rapport à la guerre actuellement. Donc, c'est vraiment intéressant aussi, ça.
Oui, dans le cas, le président Zelensky lui-même, il a lancé un appel. S'il vous plaît, on a besoin des dons. Et ça a l'avantage de ne pas demander la convertibilité, parce que c'est une monnaie, on va dire, universelle, à vocation universelle. Et donc... où que vous soyez, si vous êtes détenteur de Bitcoin, vous pouvez contribuer à une cause quelconque.
Je crois qu'on a un auditeur en ligne. On a Benoît Benkabé. Comment allez-vous ? Allô, est-ce que vous m'entendez, Benoît ? Benoît Kabé, à partir de la RDC. Est-ce que vous m'entendez bien ?
Oui, je vous écoute très bien, madame Nathalie.
Alors, merci beaucoup d'être avec nous. On vous écoute rapidement pour votre commentaire. Alors, vous vous dites sur le Facebook de VO Afrique, que changera la crypto-monnaie dans la vie quotidienne des Centrafricains? On vous écoute.
Ok, merci madame la journaliste. Merci aussi à notre invité qui y a d'abord décortiqué c'est quoi la crypto-monnaie. Il est expliqué en long et en large. Et ce que moi je pensais, comment cette circulation de monnaie pourra s'effectuer généralement, tant que le pays est d'abord en premier lieu en conflit armé. Parce que un, de deux, ces monnaies aideraient à quoi les Centrafricains tant que nous sommes dans la misère et tout comme ça. Tout ce que vous saviez avec des catastrophes de la Russie, l'Ukraine et tout comme ça.
Mm-hmm. Donc en fait, oui, vous n'avez pas grand espoir en cette forme de monnaie finalement. Vous n'y croyez pas trop, c'est ça? Vous avez jamais essayé de vous y intéresser ou non?
Non, franchement, moi je dis c'est négatif parce que rien de bon ne va plus vraiment être dans les cœurs du Centrafrique parce que le peuple n'entend pas des crypto-monnaies, mais le peuple centrafricain a besoin de la paix, a besoin juste aussi du social. Et ce n'est pas ce que le président sud-africain et centrafricain a essayé de prendre comme mesure avec la Chambre basse. Si nous arrivons à bien voir nos frères là, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils sont en train de souffrir, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils sont en train de suivre tout ce qui se passe. Ces derniers temps, nos dirigeants africains sont devenus comme des doigts, des bras, dont le cœur ou le cerveau se trouve à l'Occidentaux.
Merci beaucoup.
Tout ce qui est en train de voir, c'est qu'il se passe à l'Occident. Et ça ne sera pas une bonne chose. C'est que moi, je demanderai, à mon humble avis, c'est que nos dirigeants africains arrivent à prendre des initiatives purement africaines pour que demain ou après-demain, qu'on arrive aussi à nous intégrer dans les standards internationaux.
Merci.
Et non de copier-coller comme ils sont en train de faire. Parce que les crypto-monnaies, d'après moi, ça n'apportera rien.
D'accord.
Donc, dans tout ce que... ils ont pris comme initiative.
Merci beaucoup, Ben Benoît. Restez à l'écoute. Avant de prendre Magène Jules, qui est à Bukavu, en République démocratique du Congo également, je voudrais poser une autre question à Koy. L'Europe, dites-moi si je me trompe, il me semble que l'Europe était en passe de réglementer l'utilisation des crypto-monnaies et les États-Unis commencent aussi à s'y intéresser. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un manque à gagner pour les économies des pays?
Oui, mais... La première raison pour laquelle les pouvoirs publics s'intéressent aux crypto-monnaies, c'est pour éviter le potentiel des abus qui peuvent exister dans un espace totalement qui n'est pas régulé. Et donc, ils essayent de mettre un peu des garde-fous pour éviter que les gens perdent toutes leurs économies en une journée. L'autre raison, c'est, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, l'utilisation potentielle par des groupes de crimes organisés. Pour vente de drogue, financement du terrorisme. Et il y a aussi la possibilité de taxer les gains. Donc lorsque...
Ça, c'est le manque à gagner, oui, absolument.
Donc c'est ça qui intéresse les utilisateurs.
On a eu la même chose avec la drogue douce, l'alcool, les cigarettes, etc. Voilà, enfin. Si on peut taxer tout ça, ça rapporte beaucoup d'argent au gouvernement, n'est-ce pas? Alors, vous avez parlé là de certains qui en profitent, on va dire, du mauvais côté de la chose. Mais en attendant que d'autres pays adoptent ou légalisent la crypto-monnaie, ce qui est fort probable, on imagine, on va vers cela, est-ce profitable à l'économie actuellement? Ou autrement dit, à qui est-ce que ça profite? Bon, à part les bandes criminelles, est-ce que des particuliers peuvent vraiment devenir riches, s'enrichir avec la crypto-monnaie?
Oui, mais il faudra acheter, donc acquérir ces crypto-monnaies lorsque leur valeur est relativement basse et les revendre lorsque leur valeur a augmenté.
Oui, c'est ce qu'on fait déjà d'une manière avec l'argent normal.
Ça, c'est pour les particuliers. Pour les pays, il y a aussi un potentiel à... Il y a quelques années, un pays africain dont je tirais le nom a été exclu du système bancaire international. Essentiellement, les banques qu'on appelle correspondent banks, donc les banques qui font la convertibilité des monnaies, avaient blacklisté ce pays-là parce que
pays?
Je vais pas le citer à l'antenne pour éviter la stigmatisation, mais c'est un pays africain, un pays d'Afrique centrale. Il a été blacklisté dans le système de convertibilité des monnaies et du coup, il ne pouvait pas conclure les transactions qu'il voulait faire à l'international. Alors, si dans un monde crypto, ce genre de problème n'existerait pas parce qu'on a la même unité de valeur. Donc la monnaie nationale cesse d'exister, le crypto devient une monnaie universelle. Mm-hmm. Donc il y a quand même un potentiel pour les pays de se détacher un peu du tutelage des institutions financière internationale.
Donc on risque de voir de plus en plus de pays en développement qui risquent de s'y intéresser pour cette raison-là en particulier.
Pas seulement les pays en voie de développement, les pays qui s'estiment lésés par le système dans le système international actuel où le dollar qui est un peu de facto la monnaie internationale est un instrument perçu de plus en plus comme un instrument de la politique étrangère américaine. Donc les pays qui veulent se soustraire aux sanctions peut voir l'adoption de la crypto-monnaie une voie, une issue de sortie pour échapper au législateur d'un pays étranger.
Ouais. On a en ligne Magène Jules qui est à Bukavu en République démocratique du Congo. Il a une réflexion intéressante disant, j'entends ma voix en écho là, disant son grand avantage et celui d'en finir avec le système bancaire qui a déjà beaucoup fait souffrir les Africains. Donc c'est ce dont vous parliez, hein, Coy. La Centrafrique devrait organiser des séances de formation gratuite à la population pour qu'elle comprenne les avantages et les désavantages de cette monnaie électronique. Magène, Jules, est-ce que vous m'entendez? Non, c'est dommage. Bon, je vous ai cité tout de même. Hein. Je me retourne vers Coy. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a plus de 1500 crypto-monnaies dans le monde et les plus connues sont une soixantaine environ. Est-ce que cela veut dire qu'il y a un marché concurrentiel de la crypto-monnaie?
Pas vraiment la concurrence, mais beaucoup d'innovation dans cet espace-là parce que la plupart des crypto-monnaies sont créées pour des niches prédéfinies. Par exemple, en Afrique, il y a une crypto-monnaie qu'on appelle AmbaCoin qui a été créée par les séparatistes anglophones.
Ouais.
Et il n'y a que au sein de leur communauté que cette crypto-monnaie est utilisée.
Et donc, ça marche.
Jusqu'ici, ils ont pu lever des fonds, oui.
Oui. Et ils disent que les gens vont retrouver leur argent quand ce sera indépendant, c'est ça?
Ça, c'est le deuxième volet. Ça, c'est les Freedom Bonds.
Ah oui, ça, c'est autre chose.
Voilà.
Oui. Ouais, ouais, ça c'est encore un autre sujet. On a Mamadou Ouribari, c'est ça, qui est en ligne au Sénégal.
Bonsoir, madame. Bonsoir aux auditeurs et aux équipes de la VOA.
Bonsoir. Alors, vous, Mamadou, je vous cite, hein, vous avez écrit sur le Facebook de VOA Afrique qu'il est très risqué, selon vous, pour un pays comme la Centrafrique de se lancer dans un tel domaine dont aucune garantie de la part d'une banque est avérée. Mais néanmoins, c'est bien d'essayer pour innover. Dites-vous, on vous écoute.
Oui, absolument, absolument, Nathalie. Oui, comme j'ai dit dans mon commentaire, oui, c'est très risqué, surtout pour un État, de s'engager dans un tel, comment on appelle, dans une telle utilisation d'une monnaie, qui se dit, électronique, dans un pays, surtout africain aussi, qui n'est pas un pays développé, qui est la Centrafrique. Donc, un pays très pauvre, qui n'a pas beaucoup de ressources, même l'électricité, nous connaissons comment fonctionnent les États africains. Donc, dans ces conditions, utiliser une telle monnaie comme une monnaie nationale, il me paraît très risqué pour les États africains de s'engager pleinement dans l'utilisation de ce bitcoin. Mais néanmoins, vu quand même actuellement, nous sommes dans un monde moderne. Donc, un monde technologique, pas plein de cela, oui, il est normal d'essayer quand même, mais il ne faudrait pas s'engager pleinement quand même dans l'activité de l'utilisation de cette monnaie-là. Il me paraît très risqué, c'est pour cela que je dis, il est très risqué, surtout pour la Centrafrique, un petit pays qui ne connaît pas RL développement d'abord, dans tous les secteurs, que ce soit dans le secteur bancaire ou bien dans le secteur de l'électricité, partout. C'est un pays qui est très, très pauvre. Et il me paraît très, très risqué. Les autorités des bandits n'ont pas bien réfléchi, à mon avis, avant de s'engager, de prendre une telle décision.
Merci beaucoup.
Donc,
Mamadou.
Moi,
un grand merci, Mamadou.
Je conseillerais les États africains d'être très prudent et de s'engager pleinement dans l'activité de ces bitcoins. Parce que vous voyez, dans les grands pays, les grands pays de, comment on appelle, les occidentaux. Vous voyez pas, c'est rare dans ces pays que vous allez voir que cette monnaie est considérée comme une monnaie nationale.
Ouais. Alors, merci beaucoup, Mamadou. On a bien compris que ça fait un peu peur, tout ça, c'est vrai. Hein. Bon, voilà, on se lance. Hein, et comme l'a dit la présidence centrafricaine, on ne peut pas le nier, c'est courageux quand même. Bon, on espère que ça va marcher. On ne peut pas leur espérer moins que cela. Les monnaies nationales sont-elles menacées, Koï, par les crypto-monnaies? Et à contrario, les banques centrales pourraient-elles en tirer un avantage en créant leur propre crypto-monnaie? Par exemple, je ne sais pas trop de quoi je parle. Je ne sais pas si c'est déjà fait ou pas. Mais autrement dit, par exemple, les monnaies fortes, on imagine qu'elles peuvent être peut-être menacées. Mais quand on a une monnaie faible, on risque peut-être moins, non?
Ah, c'est plutôt l'inverse.
C'est l'inverse?
Oui. Donc, lorsque vous avez une monnaie faible, par exemple, le dollar zimbabwéen, les gens trouvent un refuge dans les crypto-monnaies parce qu'elles sont plus stables, elles sont universelles.
Oui.
Mm-hmm. Et à part le risque de se retrouver pauvre parce que ça fluctue tellement,
oui.
C'est quand même, il y a une marge de sécurité qui vient avec la crypto-monnaie comparée au dollar zimbabwéen.
Oui. Et est-ce que les banques centrales sont menacées par rapport à ça? Quel problème ça pose aux banques centrales?
Ça les force à innover. Par exemple, le e-Naira, donc la banque centrale du Nigeria, est derrière le projet de e-Naira. Le e-Yuan, la banque centrale, le People Bank of China, la banque centrale de la Chine, est derrière ce projet-là. Même chose au Venezuela.
C'est le projet de monnaie virtuelle dont vous parliez tout à l'heure.
Exactement.
Donc c'est une sorte de parallèle, comme on l'a dit tout à l'heure. Mm-hmm. On a Charles Bazema en ligne. Charles, est-ce que vous m'entendez? Au Burkina Faso, avec beaucoup de bruit derrière. Charles, est-ce que vous êtes là? Bon, je crois que on a Charles, mais à moitié avec d'autres personnes. Je vais le citer, Charles. Il a écrit sur le Facebook de VO Afrique, encore une porte ouverte pour les arnaqueurs et le blanchiment d'argent, dit-il, même si la décision est bonne pour la Centrafrique qui sera indépendante de ses investissements et transactions, dit-il. Nous sommes dans un monde informatisé où tout se passe sur le numérique et encore nos achats dans les pays occidentaux et asiatiques sont faits en dollars ou en euros. Ça me fait penser à la Russie, par exemple, qui a demandé à ce qu'on ne paye plus en dollars, etc. Dans ce cas-là, est-ce que c'est un avantage pour eux, la crypto-monnaie, pour le gouvernement russe?
C'est un avantage pour eux. Mm-hmm. En fait, l'objectif, c'est de créer une architecture de la finance internationale qui échappe au contrôle d'un gouvernement avec lequel on peut se retrouver demain en situation de conflit.
Mm-hmm. Ouais.
Et un avantage, le dernier avantage que je vais mentionner par rapport aux crypto-monnaies, c'est pas tellement la monnaie en tant qu'unité d'échange des valeurs, mais c'est la technologie de blockchain qui a tellement d'applications dans tellement de domaines. On peut l'utiliser pour sécuriser les titres fonciers. On peut l'utiliser pour établir des documents d'état civil qui sont fiables et même pour sécuriser le fichier électoral, ce qui mettra fin aux disputes après les élections parce qu'on pourrait voir en temps réel qui a réellement gagné l'élection.
Ok, donc en fait, c'est un système qui pourrait permettre d'améliorer le système blockchain lui-même parce que la crypto-monnaie utilise ce système-là.
Cette technologie de blockchain est applicable à plusieurs domaines qui peuvent sauver des vies humaines.
Ouais. Donc on a d'autres commentaires. Je ne sais pas si on a un auditeur en ligne pour terminer. Sinon, je vais les citer. Par exemple, Alpha Mbouyou, qui est à Lubumbashi, il dit par rapport à la couverture Internet plus mauvaise en campagne, il se demande si cette monnaie sera principalement utilisée dans des villes. Et il pose la question, est-ce bien sécurisé? Quel remède mis en place en cas de complications en ligne? Il y en a plusieurs qui ont parlé donc de cette question, forcément la couverture Internet. Il y a Christian Politasi qui dit... la réticence dont elles souffrent, et donc les crypto-monnaies, est due au fait qu'elles ne sont pas légalisées dans un circuit bancaire. Toutefois, au fur et à mesure, elles feront foi, comme c'est le cas avec les monnaies électroniques. Donc ça, c'est la réflexion de Christian Politasi. On a Tidiane Botegueba qui est au Niger et qui pense que cela ne changera rien à son avis. Thierno Diallo, il parle aussi des problèmes de connexion Internet. Et Alphonse Mbouaki, qui est en République démocratique du Congo, il dit avantages et inconvénients. Les monnaies virtuelles sont aujourd'hui un risque potentiel pour les monnaies fiduciaires. Aussi, elles sont volatiles et difficiles à contrôler par un État. Les cas d'escroquerie demeurent une possibilité. Un petit mot pour terminer, Koy.
Oui, pour dire que le défaut principal des monnaies virtuelles, c'est qu'elles ne sont pas inclusives à l'heure actuelle.
Ok, ouais, on a très bien compris. Voilà. Ouais, on a très bien compris. Merci beaucoup, Koy. Merci beaucoup à nos auditeurs. Un grand merci à Senou Moukaïta, à la production. C'était Nathalie Barge. Restez à l'écoute de